Bienvenue dans la baie du Mont-Saint-Michel pour ce nouvel épisode sous les ailes de l'Archange. En chemin vers Pâques, pour ce cinquième dimanche de carême, Bernadette Guilminot, mère de famille, philosophe, ancienne élève de Vladimir Yankelevitch, vous propose un commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 12. Si le grain de blé ne meurt.
Bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous arrivons au cinquième dimanche de carême et nous sommes donc très proches de la fête de Pâques, cœur de notre foi. Ce texte de Jean nous apparaît comme un chemin vers ce mystère de la résurrection. Nous partons des événements. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Notre foi chrétienne s'enracine dans des lieux et des moments de l'histoire. Nous sommes à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, Pessah, qui célèbre pour les Juifs la fin de l'esclavage, la sortie d'Égypte. Cette fête célèbre une libération temporelle, une libération qui a eu lieu, et elle invite aussi les Juifs à poursuivre ce travail de libération dans leur propre vie. Jésus va donner un sens nouveau à cette fête de la libération. Ce n'est plus seulement la libération de l'esclavage, mais la libération de la mort, de la peur de la mort, de l'absurdité de la mort. Pourquoi vivre s'il nous faut mourir? La mort est un scandale, mais voilà que Jésus nous promet la vie éternelle. Dans ce cheminement vers la lumière de Pâques, nous allons essayer de réfléchir à cette promesse. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et cette promesse n'est pas faite seulement à quelques-uns, mais à toute l'humanité. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà le but tel qu'il est énoncé par Jésus. Reprenons notre lecture. Les Juifs grecs, comme les autres, sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais ils sont aussi là pour tenter de rencontrer cet homme dont la réputation s'est répandue jusqu'en Grèce et qui apparaît comme un homme doué de pouvoirs extraordinaires. Il fait voir les aveugles, fait marcher les paralytiques, mais surtout il vient de ressusciter son ami Lazare. Jésus est auréolé de gloire, mais une gloire mondaine, la puissance et la gloire, comme l'on dirait. Et l'on cherche à rencontrer cet homme extraordinaire, ce faiseur de miracles. Et de même qu'on ose aborder directement une vedette, on passe par des intermédiaires. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Et tous deux vont servir de messagers, ils vont le dire à Jésus. Et la réponse de Jésus est étonnante, paradoxale, renversante au sens propre du mot. Elle met tout à l'envers. Certes, Jésus affirme que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, mais on comprend assez vite que cette gloire n'est pas une gloire terrestre au sens habituel. Il commence par se désigner par ces mots que l'on retrouve souvent dans la bouche de Jésus, le Fils de l'homme. Il ne veut pas qu'on le regarde comme un surhomme, une sorte d'homme augmenté, comme on dirait aujourd'hui. Il est le Fils de l'homme. Il assume totalement son humanité, notre humanité. Il est né, il a vécu, il a souffert et il va bientôt connaître les pires des souffrances, la condamnation à mort d'un innocent et son martyr. Et pourquoi Jésus, le Fils de l'homme, doit-il être glorifié? Là encore, Jésus trouble certainement son auditoire en proposant une réflexion qui s'enracine dans l'image d'une chose extrêmement humble et fragile, un grain de blé. Et c'est là le moment clé du renversement. Le Fils de l'homme doit être glorifié parce qu'il assume la mort, non par goût de la souffrance, mais parce que le passage par la mort, par la disparition, par l'arrachement, est la condition même de la vie humaine et de la vie chrétienne. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Cette affirmation peut donner une orientation, une direction à notre marche vers Pâques. Nous sommes les enfants d'une société qui valorise l'individu, son bien-être, sa santé, son épanouissement personnel. Nous sommes les enfants d'une société qui valorise les pulsions et les besoins de toutes sortes, qui nous réduit souvent à notre seule dimension de consommateur. Nous cachons la mort. Or, une vie humaine n'est possible que par une succession de morts et de renoncements. La naissance est un arrachement, une mort. C'est la fin d'un mode de vie, la vie fœtale, la fin de cette fusion totale de l'enfant, encore fœtus, et de la mère. La venue au monde, qui ouvre à la vraie vie, est douloureuse pour la mère comme pour l'enfant. L'accouchement n'est jamais sans risque ni douleur, et la psychologie parle du traumatisme de la naissance pour l'enfant. Il faut renoncer à cette fusion pour que la femme devienne mère et que le petit d'homme puisse naître à la vie. Il en est de même pour la suite de notre existence. L'enfant va traverser les tumultes de l'adolescence qui vont l'arracher au confort de son statut d'enfant. Cet arrachement prend le nom de crise parce qu'il s'agit, pour les parents comme pour l'enfant, d'une transformation radicale qui passe parfois par des phases de violence et de conflit. Ce conflit se manifestant assez souvent chez l'adolescent par le goût de la prise de risque, comme s'il voulait s'éprouver en éprouvant sa capacité à affronter la mort et à triompher de la peur de la mort. Ainsi va la vie humaine, d'étape en étape. Chaque moment parcouru de la vie suppose le renoncement à certains des aspects et des conforts du moment précédent. Si nous lisons ce texte d'un simple point de vue humain, qui aime sa vie la perd, nous pouvons déjà en tirer beaucoup d'enseignements. Que cette marche vers Pâques nous apprenne également à assumer les renoncements qu'exigent les étapes de la vie. Mais ce texte a pour nous chrétiens une autre dimension. Non seulement il nous invite à accepter de mourir tout au long de notre vie pour porter beaucoup de fruits, mais il nous promet la vie éternelle et la libération de la peur de la mort. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il faut que le Christ assume toutes les étapes de sa passion pour libérer l'humanité de l'angoisse de la mort, de la souffrance et du néant. La méditation sur la mort n'est que l'étape d'une méditation sur la vie et sur la vraie vie. Ce n'est pas une complaisance avec le morbide. Pour nous aider à saisir ce mystère et pour terminer mon propos, je vais faire appel à un artiste. Les artistes ont souvent un rapport avec la transcendance, le mystère, ce qui nous dépasse. Et leur génie est d'exprimer, de rendre sensibles ces aspects les plus forts de notre existence. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette œuvre magistrale du peintre allemand de la fin du Moyen-Âge, Matthias Grünewald. Œuvre connue sous le nom de Retable d'Isenheim et que vous pouvez contempler au musée Unterlinden à Colmar. Cette œuvre a été commandée par les pères Antonin, un ordre religieux qui accueillait dans son hôpital les malades atteints de ce que l'on appelait le feu de Saint-Antoine, une maladie provoquée par l'ergot de seigle. C'est une œuvre monumentale. Le panneau central fermé représente une scène de crucifixion impressionnante, un Christ immense. Le corps est livide et il porte toutes les stigmates de la souffrance avec un réalisme étonnamment moderne. Le corps du Christ est couvert de plaies, de blessures, un paysage de désolation et de fin du monde. Tout est nuit. Et au pied de la croix, les personnages sont tout petits et frappés par la douleur morale. Mais lorsqu'on ouvre le panneau central, nous changeons totalement d'univers pictural. C'est le règne de la couleur, de la lumière et de la joie. L'Annonciation, l'Incarnation et au centre la Résurrection. Le corps de Jésus se confond avec la lumière, il est nimbé de lumière, son visage n'est plus que lumière. Alors que dans nos vies et dans notre marche vers Pâques, nous ne séparions pas la vie de la mort, ni la mort de la vie. Tel est le chemin que nous montre ce texte de Jean.